Morin. Live.
Avec Dominique Morin.
Nous sommes profondément désolés.
Radio X.
De retour dans Morin Live. Il est actuellement 7h42. Tôt ou tard, on entrera en mode électoral et à ce moment-là, on verra les forces en présence. C'est là qu'on va, pour reprendre le vieil adage, séparer les adultes des enfants. On voit les sondages actuellement, oui, le PQ est en légère baisse, le Parti libéral en légère hausse, mais on va se le dire dans les comtés francophones, c'est quand même une domination du PQ jusqu'à maintenant. On se dirige vers un mandat référendaire, c'est-à-dire que ce sera un mandat qui sera utilisé par le PQ pour bâtir le référendum qui sera en fin de mandat. Tout ça, c'est pas de la fiction. Là. Non, j'en veux pas de référendum. Non, mais si vous votez PQ, vous votez pour un référendum. Ce fut réitéré ad nauseam en fin de semaine. Mais Abdel Fadel avait, entre autres, un bon point ce matin dans le journal en disant « Ouais, mais ce qui manque, c'est peut-être comment on va gérer le Québec quand même pendant 4 ans. » Je comprends qu'on va bâtir un référendum, mais il y a quand même des impératifs de gestion. Il y a quand même un Québec qui existe. Là. Et il y a eu l'histoire du dollar et de la piastre en fin de semaine. Très bon article dans le National Post écrit par André Pratt qui, somme toute, dit que ouais, le PQ a comme une free ride actuellement où on peut raconter à peu près n'importe quoi, pas challengé par les journalistes. Il est en ligne. André Pratt, comment ça va?
Bonjour Dominique, ça va très bien, toi?
Très bien. On se permet de se tutoyer. On s'est connus dans une ancienne vie à la presse il y a longtemps, très longtemps, en 91 quand même. Ça ne nous rajeunit pas.
Le temps passe. Ça ne nous rajeunit pas.
Exact. Ouais. André, qu'est-ce que tu as écrit au juste pour commencer par la base? Parce que l'entrevue devait uniquement porter là-dessus ce matin. Mais là, il y a l'histoire de la piastre qui s'en est mêlée. Et on va parler de ça en fin de semaine. Mais d'abord, l'article dans le National Post. Qu'est-ce que tu disais exactement?
Bien, le Parti québécois a dévoilé, il y a quelques jours de ça, avant de parler de la monnaie, ils ont dévoilé ce qui serait la politique internationale, la politique étrangère d'un Québec indépendant. Et il disait là-dedans, par exemple, que bon, dès l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, ils vont doubler la représentation du Québec à l'étranger. Donc, au lieu d'avoir actuellement, il y a une trentaine de délégations du Québec dans différents pays dans le monde, ben, il y en aurait deux fois plus. Donc, il y en aurait entre 60 et 70 dès l'élection. Là, ça n'attend pas l'indépendance. Là, dès le lendemain d'une élection gagnée par le Parti québécois. Et puis, une fois le Québec indépendant, ben on aurait une diplomatie bien plus extraordinaire que celle du Canada, mais ça nous coûterait 1 milliard de moins, c'est-à-dire moitié moins cher. Et c'est ce qui me faisait dire, Dominique, que des fois, le Parti québécois, même si le chef, M. Saint-Pierre Plamondon, parle de façon très raisonnée, très posée et tout, ils disent des choses qui sont vraiment invraisemblables et ça passe, on dirait. Alors, par exemple, de prétendre qu'on va avoir la même diplomatie, même une meilleure diplomatie que celle du Canada, mais que ça va coûter moitié moins cher, donc 1 milliard de moins, c'est pas crédible. Là. C'est vraiment... ça tient pas debout. Là. Il y a certaines choses qu'on peut prétendre, mais il y a quand même des limites à prendre des gens pour des valises. Alors, c'est un peu ce que je disais dans le National Post la semaine dernière.
Est-ce qu'on est dans la pensée magique, un peu beaucoup?
Bien, moi, je sens, peut-être que je me trompe, là, puis je veux pas critiquer mes anciens collègues journalistes, mais moi, j'ai l'impression que M. Saint-Pierre Plamondon arrive toujours avec des documents, puis s'exprime très bien, puis ça a l'air très solide. Alors, je pense que souvent, les journalistes craignent un peu de le défier, de lui poser des questions plus dures, parce que d'abord, M. Saint-Pierre Plamondon est très rapide sur le piton pour critiquer ceux qui osent le remettre en question. Alors, je pense qu'on fait très attention, surtout quand c'est des chiffres qui sont mis de l'avant, et puis des données produites par supposément des économistes et tout. Alors, on craint beaucoup ça. Donc,
est-ce que ça n'en dit plus sur les journalistes ou sur PSPP, André?
Ben, écoute, encore une fois, moi, je veux faire bien attention de ne pas critiquer le travail de mes anciens collègues parce que je sais que c'est un travail qui n'est vraiment pas facile, mais il reste que, à tout le moins, c'est certainement le travail des partis d'opposition, des différents partis d'opposition, de montrer ce qui fonctionne pas dans ce qu'on... Parce que ce qui est clair dans ce que le Parti québécois fait actuellement, c'est qu'il établit très clairement que l'enjeu de la prochaine élection en 2026, c'est pas quel genre de gouvernement on va avoir, c'est est-ce qu'on veut un référendum sur l'indépendance du Québec? Et le projet dont on nous parle, c'est pas le projet de René Lévesque, c'est pas le projet de Jacques Parizeau, c'est un projet beaucoup plus radical. C'est vraiment, puis je sais que les souverainistes n'aiment pas qu'on utilise ce mot-là, mais c'est ça pareil. Ce qu'on nous propose, c'est vraiment un Québec séparé du reste du Canada, qui aurait, par exemple, on va en parler tantôt, sa propre monnaie,
oui.
Et qui aurait sa propre armée, ses propres relations diplomatiques. Il n'y aurait pas de parlement commun entre le Canada et le Québec. Donc, c'est vraiment très différent de la souveraineté association ou du partenariat dont M. Parizeau, Dumont et Bouchard nous parlaient en 1995. C'est un projet différent.
En fin de semaine, on a parlé, évidemment, moi, j'ai trouvé le reportage révélateur de ce qui semble être un genre de projet scolaire. J'ai écouté des vox pop sur le plancher lors de ce congrès national-là qui se déroulait à Sherbrooke. J'ai trouvé que c'était très désinvolte, léger. Oui, j'appellerais ça la pièce. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont marquants. Là, moi, je verrais Gilles Vigneault sur la pièce. J'ai trouvé ça un peu scolaire, si tu me permets. Puis, je comprends qu'il y a quand même un économiste sur la scène, là, mais je trouve que ça manque un peu de muscle. Tu sais, quand on ressort, entre autres, l'ancien ministre Marceau, là, pour analyser, là, je trouve que ça manque un peu de... L'alignement n'est pas très, très fort, mais... Dans le projet, dans le livre bleu, on donne trois scénarios pour ce qui est de la monnaie, donc dans une ère post-référendaire. Il y aurait l'adoption du dollar canadien, il y a ensuite l'adoption du dollar américain et ensuite la création d'une monnaie québécoise. Et c'est là qu'on tombe dans un genre de flou artistique où on veut calmer les Québécois parce que beaucoup de Québécois trouvent que c'est radical du jour au lendemain d'abandonner une monnaie. Donc, moi, ouais, pendant une dizaine d'années, là, on va garder le dollar canadien. Là. Et par la suite, s'il y a de la turbulence et tout, on ira avec une monnaie québécoise. Je trouve ça désinvolte d'argumenter en prétendant que le Canada, le reste du Canada, qui serait très frustré d'une potentielle victoire du oui, pourrait accepter qu'on conserve la monnaie. Je trouve qu'il y a beaucoup de désinvolture dans les échanges. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette histoire-là de création de monnaie?
Bien, d'abord, je pense qu'il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que, tu sais, ça paraît bien technique, là, changer de monnaie, puis avoir un nouveau dollar, puis, bon, les taux de change et tout ça. Mais la décision qu'on prendrait dans l'éventualité d'un oui à un référendum sur la monnaie, ça aurait un impact colossal sur l'économie du Québec. Par exemple, selon la valeur de ce nouveau dollar québécois, si c'était très élevé, ça nuirait à nos exportations. Si c'était très bas, ce qui est plus probable, ça entraînerait une forte inflation. Ça augmenterait les coûts des taux d'intérêt pour la dette du Québec. Bref, c'est une décision majeure qu'on peut pas prendre avec des infoltures. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ça, c'est la méconnaissance que tous ces gens-là semblent avoir du reste du Canada, de l'état d'esprit du reste du Canada. Si on nous dit, ah oui, on cite M. Parizeau ou Jean-Martin Hossan, puis on nous dit, ah, le Canada va accepter parce que c'est dans leur intérêt d'accepter, puis tout ça. Hey, moi, je connais beaucoup de Canadiens anglophones, de Canadiens du reste du Canada. Leur attitude par rapport à l'indépendance du Québec a considérablement changé depuis 1980 et 1995.
De quelle manière, André?
Ben, leur attitude, essentiellement, c'est « Vous voulez vous en aller? Allez, d'accord, allez-y, mais comptez pas sur nous. »
Il n'y aura pas de love-in comme en 95 avec Jean Charest, là.
Pas du tout. Absolument pas. Vous pouvez être sûr que l'attitude va être complètement différente. Ils veulent que le Québec reste, mais ils en ont un peu marre de ces référendums à répétition. Et donc, si les Québécois décident de s'en aller, ben ils vont s'en aller, mais ils vont s'en aller pour vrai. Puis le projet de M. Saint-Pierre-Balmondon, c'est ça. C'est la séparation du Québec. Il ne faut pas avoir peur des mots, là. C'est de ça qui est question. C'est plus la souveraineté association. Et le Canada ne voudra rien savoir d'un partenariat à court terme, à tout le moins. Et c'est très révélateur, comme tu le disais. T'sais, ils nous disent, ben, on va avoir un dollar québécois, mais par peur d'instabilité, on va garder le dollar canadien pendant un bout de temps. Alors, d'une part, on nous dit que c'est bien épouvantable d'avoir le dollar canadien, que c'est nuisible pour notre économie, c'est effrayant. Mais en même temps, on nous dit qu'on va le garder au moins 10 ans au cas où ça aille mal. Je trouve pas ça rassurant du tout, pas du tout.
Pour la suite des choses, le oui tire à 30 %. Toi, ce que tu dis, c'est pas grave, il y a un fort potentiel de croissance. Mais le oui va carburer à l'antagonisme. C'est ça, dans le fond, les bouffées de chaleur qu'on a eues, c'est quand il y a eu de la chicane. Est-ce à dire, selon toi, et rappelons-le, t'es fédéraliste, puis c'est pas une maladie, là, je vais parler un souverainiste tantôt, donc ça va équilibrer les affaires. Mathieu Bock-Côté s'en vient tantôt, donc on va voir les deux côtés. Mais est-ce à dire pour toi que le PQ va carburer à chicane, entre guillemets, pour tenter de mousser Louis pour arriver en fin de mandat avec un référendum? Ça pourrait ressembler à quoi, le scénario?
Je sais pas quelle va être la stratégie ou le scénario, Dominique, mais il y a une chose qui est claire, c'est que on l'a vu en 1995, on l'a vu dans d'autres pays comme au Royaume-Uni avec le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les sondages d'avant le référendum, c'est une chose, mais le référendum, la campagne change quelque chose et tu sais jamais avec quel résultat tu vas aboutir à la fin. Alors moi, c'est pour ça que moi, ma conviction, c'est que le moment le plus important, c'est pas un éventuel référendum. Le moment le plus important, c'est la prochaine élection. Parce que c'est la prochaine élection qui va décider de la suite des choses. Cette élection-là va clairement porter, même si les souverainistes vont prétendre le contraire, va clairement porter sur l'indépendance du Québec, sur la séparation du Québec du reste du Canada. Parce qu'après ça, la machine est enclenchée, puis M. Saint-Pierre Plamondon ne s'en cache pas du tout. Ils vont investir toutes les ressources de l'État québécois pour préparer un référendum et espérer le gagner. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, tu sais, que oh, on va voter pour le PQ parce qu'on aime bien M. Saint-Pierre Plamondon, puis après ça, on verra. Non, 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 non. Le vote important, c'est le 5 octobre 2026.
T'es dans le Parti libéral encore, quoique t'as pas des fonctions précises et, en tout cas, t'es plus une éminence grise qu'autre chose. Un grand sage, on va l'appeler de même, là. Pablo, à vous le bon cheval? On n'est pas sûr, là.
Ben, écoutez, on va voir. Moi, je pense qu'il fait un excellent travail actuellement. C'est un travail qui ne se voit pas beaucoup parce qu'il se promène dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les gens, comprendre comme il faut les dossiers, trouver des bons candidats pour les prochaines élections. Alors, c'est un travail moins visible que s'il était à l'Assemblée nationale. Alors, les gens trouvent qu'ils ne voient pas beaucoup à la télévision, mais le travail de fond qui se fait doit se faire. Et je pense que c'est un travail important qui va payer à plus long terme, à temps pour les élections d'octobre 2026. Mais on s'en cache pas. Le Parti libéral du Québec a du travail à faire. Et le travail principal qu'il a à faire, c'est de présenter aux Québécois un projet qui s'attaque aux problèmes concrets des gens. Parce que les problèmes concrets des gens, c'est pas de savoir s'il va y avoir un dollar québécois ou un dollar canadien. C'est comment est-ce qu'ils vont trouver assez de dollars pour faire leur épicerie ou payer leur logement. C'est ça le vrai problème des gens. Exactement. Et c'est à ça que le Parti libéral du Québec doit proposer de s'attaquer.
Merci beaucoup, André Pratt.
OK, merci, Dominique.
Merci.
À la prochaine.
Bye-bye. André Pratt. Puis on va parler avec Mathieu Bock-Côté. Je vous dirais que c'est pas mal les deux côtés de la médaille, papy?
Pas mal.
Mathieu, on peut-tu finir avec un extrait, tu sais, parce qu'on n'aura pas grand place ce matin dans Morel Live, parce qu'on s'en va avec Frank, le dédomiseur, dans quelques minutes. Mais peut-être finir avec une mini légion. Merci à Nick de nous avoir sorti des extraits. Bock-Côté était avec son grand ami, entre guillemets, Guillaume Lepage.
Ouais.
Je m'attendais à des accrochages. Il y en a eu la dernière fois avec son ancien fou du roi, je pense, qui n'est plus là. Ça a donné quoi hier? T'en as pensé quoi? Je sais que tu as écouté les extraits avant de les diffuser.
Oui, j'ai écouté ça.
Ça a été très long hier, encore une fois, Mathieu, qui prend le temps d'expliquer, qui prend le temps de...
Ben, ils ont commencé l'entrevue.
Oui.
Puis, c'était pas une mauvaise stratégie, par exemple, de Guilla de faire ça, là, parce que Mathieu peut s'étaler beaucoup en jasant, là, oui. On s'entend, là. Fait qu'il a dit, j'ai 15 questions, puis j'ai 15 minutes.
Ouais, en voulant dire...
fait qu'essaie d'être un peu... essaie de résumer tes réponses, s'il vous plaît.
Ce sera un défi d'Amore Live vers 9h ce matin. Manquez pas
exact.
Ça.
Exact. Donc, mais... Oui, ils se sont pognés un petit peu, parce que ça reste deux souverainistes qui se jasent. Là.
Ouais.
Tu sais, Guilla s'est jamais caché qu'il était souverainiste.
Oh oui.
Mais Guilla a un petit côté QS un peu sur le bord. Quoique, il y a un bout de péquiste aussi. Tu sais, d'après moi, il est mélangé un peu entre les deux. Là.
T'avais Ruba Gazal qui était pas trop loin. Là.
Exact. Ben, elle est venue plus tard dans le show. Quand il était juste avec Mathieu Bock-Côté, ça a donné ça, entre autres.
Je dis que certains des travers les plus inquiétants qu'on a connus en URSS se reproduisent aujourd'hui. Par exemple, la volonté de... d'assimiler tout désaccord avec l'époque à des propos haineux. Je vais vous donner un exemple, bien que ce pays ait quitté l'Union européenne récemment. en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet que les autorités officielles disent « c'est un tweet haineux ». Mais la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin pour un propos qui choque les uns les autres, je trouve ça soviétique. Quand on voit, comme on le voit en France aujourd'hui, certains disent, bon, ils sont inquiets de l'arrivée des conservateurs, des populistes, des identitaires à plaider comme vous voulez au pouvoir. Ils disent, il faut faire en sorte que si jamais ils arrivent au pouvoir, ils ne puissent pas tenir le référendum qu'ils veulent tenir, ouais, parce que le peuple est trop inquiétant dans leur esprit trop souvent. Le peuple, c'est une masse qui agrège des préjugés inquiétants et dès lors, il faudrait protéger la démocratie contre le peuple. Et ça, c'est, je pourrais multiplier les exemples, je pense que la méfiance envers le peuple, la méfiance envers la démocratie, la méfiance envers la liberté d'expression, tout ça au nom d'une conception, d'une forme de progrès P majuscule, dans les faits, ça nous conduit à une forme de nouvel autoritarisme qui ne dit pas son nom.
Et plus tard, c'est ça, tu avais Ruba et Sol Zanetti qui étaient présents donc sur comme invités. Puis on leur a parlé. Bon, êtes-vous prêts à faire partie d'une association, je peux dire, d'un camp du oui avec le PQ?
S'il y avait un référendum, seriez-vous à l'aise de faire campagne avec PSPP comme chef du camp du oui? Est-ce que votre appui au camp du oui serait conditionnel?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir le camp du oui comme un camp dans lequel il y a beaucoup de monde très différent. Et puis, il va y avoir la société civile dans le camp du oui. Il va y avoir du monde de plein de tendances dans le camp du oui. Et nous, c'est clair qu'on va être dans le camp du oui. Est-ce que ça veut dire, après ça, qu'on va être d'accord avec les politiques de Paul Saint-Pierre Plamondon? Par exemple, dans ce scénario très hypothétique, hein, parce qu'on dit souvent trop haut, trop tôt, là, à ce moment-ci, un an avant les élections. Et voilà, donc, il n'est pas question pour nous de dire à Québec solidaire, arrêtez d'avoir un discours inclusif, arrêter de vouloir inclure tout le monde dans le camp du oui. Et je pense que si on obéissait à ça, nous qui pensons ainsi, là, les gens qui disent « Hey, c'est important, il faut que tout le monde se sente inclus », ben en quelque sorte, on mettrait en place les conditions d'un échec. Et il n'est pas question qu'on perde un autre référendum sur l'indépendance.
Finalement, je réécoute sa réponse, mais pas clair.
Non, c'est ça.
Il avait l'air de dire...
Manque de guitare. Là.
Ouais. Moi, j'avais compris, oui, au départ, on va en faire partie. Mais là, à la fin, il est comme « Ben là, faut pas perdre. » Fait que...
C'est correct. Il est 8h pile. Ouais. Tout va bien aller. Bon lundi à tous. On s'en va en pause. Et en revenant, c'est Frank à Radio X.
Morée. Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.